Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon. 7. Jagger Richard, l'invention d'une signature.
Les Stones jouent très bien les morceaux des autres, mais il leur faut des chansons qu'ils soient seuls à jouer. Et c'est ainsi qu'on va étudier aujourd'hui la fabrique de la signature Jagger Richard. Well, if you ever plan to motor west, a jack take my way, that's the highway, that's the best. I'll get your kick.
Le problème des Rolling Stones, maintenant, c'est le répertoire. Ils le jouent à la perfection, se risquent dans des morceaux peu connus de rhythm and blues, mais maintenant, des dizaines de groupes, après eux, le font aussi. On enregistre à nouveau, mais Route 66 ne ferait que reproduire ce qu'on a déjà eu avec Come On. Decca refuse de sortir le disque. Il faut de l'original. Alors l'après-midi, on s'enferme sur la scène vide du Ken Collier Club, où on joue le soir. On recreuse tout ce qu'on sait jouer. On cherche la perle. Andrew s'énerve. Il dit à Brian et Mick qu'ils font toujours la même chose. Eux, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. Andrew, vexé, sort dans Soho. Un taxi s'arrête à sa hauteur. Une voix l'interpelle.
Hello, Andy. Looking unhappy. What's the matter? Oh, I'm fed up. The Stones can't find a song to record. Hey, Andy. T'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Juste marre. Pas possible de trouver un vrai truc à enregistrer pour les Stones. We've got a song we've almost written. Et nous, on a une chanson.
C'est Lennon et McCartney qui n'ont pas démenti cette version donnée par Andrew.
Old tune there, Route 66, and of course Mick Jagger was vocalizing there with the skillful guitar work of Brian Jones and Keith Richards.
En tout cas, John et Paul signent depuis longtemps des chansons, et pour les Beatles, et pour les autres groupes que produit Brian Epstein. Charlie Watts reste à la batterie, Lennon prend la guitare acoustique de Keith, et Paul, le gaucher, jouera sur une seule corde de la basse de Wyman. Il leur joue l'ébauche de I Wanna Be Your Man, et puis on le joue ensemble. Il manque l'essentiel, le pont au milieu de la chanson, et puis les paroles. Alors Lennon et Mac, comme ils disent, virent tout le monde et s'enferment une heure. Leur disent de rentrer, et voilà, la chanson est prête. Ils travailleront plusieurs semaines d'affilée ensuite sur I Wanna Be Your Man. Et Brian en fera une vraie chanson des Stones en y ajoutant de la guitare slide. Le deuxième disque des Stones les propulsera enfin numéro 1. Mais c'est grâce aux Beatles. On a le culot, puisqu'il se vend autant de face A que de face B sur les 45 tours, de mettre au dos une improvisation qu'on signera Nanker Felge pour partager les droits. Ça s'appelle Stoned. Maintenant, Andrew habite avec Keith et Mick, et Bill Wyman les appelle The Unholy Trinity, la Trinité non sainte. Tout ce qui concerne le groupe est décidé à Malmesbury Road, où il dispose enfin d'une salle de bain. Pourquoi les Stones n'écriraient pas leurs propres chansons, comme les Beatles? C'est vital pour le groupe, mais après tout, tous considèrent encore le succès des Stones comme quelque chose de provisoire qui ne va pas forcément durer. Ce qui dure, c'est l'industrie musicale. Comme Brian Epstein, Andrew fait enregistrer à tour de bras, à la bonne mine, des chanteurs dont on n'entendra plus jamais parler. C'est pour eux qu'il faut du matériel dont on est pour soi seul, les royalties. C'est pour son Andrew Lou Goldham Orchestra qu'Andrew, un soir, enferme Mick et Keith dans la cuisine, en promettant de les libérer une fois qu'ils auront écrit leur première chanson, Keith Richards.
Writing. I suppose really the credit for that must go to Andrew, because I'd never thought of writing. It had never occurred to me. I thought it was something else, like being a novelist or a computer operator. It was a completely different field that I hadn't thought of. I just thought of myself as a guitar player. Écrire. Je suppose que c'est à Andrew qu'on le doit, parce que je n'avais jamais pensé à écrire. Ça ne m'était pas apparu. Je pensais que c'était quelque chose d'autre, comme d'être romancier ou agent informatique. C'était un champ complètement différent, auquel je n'avais jamais pensé. Je me considérais seulement comme un guitariste. It was Andrew who really forced Mick and I to sit down and try it, and who got us through that initial period that you have to go through, where you just write absolute rubbish. You just rewrite other people's songs until you start coming up with songs of your own. C'est Andrew qui nous a vraiment forcé, Mick et moi, à nous asseoir et essayer, et qui nous a porté dans cette période de début, quand il fallait aller au-delà de cette camelote absolue qu'on a écrite. Juste tu réécris les trucs des autres, jusqu'à commencer à avoir des airs vraiment à toi.
Ce qui s'est passé dans la cuisine, ce soir-là, on ne sait pas. Sauf qu'ils ont pris un air de Buddy Holly et ont brodé sur le thème. La chanson, cette première qu'ils écrivent, s'appellera « It Should Be You » et sera enregistrée par un nommé George Bean. Quand on a fait ça une fois, pourquoi ne pas continuer ? Dans les loges de l'émission « Thank Your Lucky Stars » à Birmingham, ils sympathisent avec un grand gaillard américain de 5 ans leur aîné, qui connaît un succès phénoménal pour enregistrer 7 fois sa propre voix dans ses disques et jouer lui-même la basse et la batterie. Ils jouent à Jen Pitney leur nouvel essai, My Only Girl. Leur chance, c'est que Pitney décide de se l'approprier, et là où les Beatles s'étaient enfermés sans eux pour franchir les étapes, il les aide à muscler l'objet complexe de 2 minutes 30 qu'est une chanson, et les fait venir en studio avec lui pour la fabriquer. Il en change même le titre, et a la générosité de ne pas s'y associer en tant que co-auteur. Avec That Girl Belongs to Yesterday, Jagger Richard, auteur-compositeur, connaîtront leur premier succès. Un succès tout anonyme, mais à une échelle qui dépasse de loin celle des Rolling Stones.
To me and to Mick at that time, writing a song was as different as someone who makes a saddle for a horse and someone who puts the shoes on it. It's a different gig. I play them, you write them. We were trying to write Hoochie Coochie Man, and you come out with a song almost like Greensleeves. But it gives you the confidence to think, well, if we can write one, we can write two. Pour moi et pour Mick, en ce temps-là, écrire une chanson, c'était aussi différent qu'entre quelqu'un qui fabrique une selle pour un cheval et un autre qui lui cloue ses fers. C'est tout un autre truc. Je les joue, tu les écris. On essayait de sortir quelque chose du genre de Hoochie Coochie Man et on ressortait avec une chanson du genre de Greensleeves. Mais ça te donne assez de confiance pour te dire « Bon, j'en ai écrit une, je peux en écrire deux. »
Thank you.
Et on recommence. Cette fois pour une jeune fille blonde de 17 ans tout juste, dont la mère est baronne de Sader-Mazoch, qui accompagne son copain, poète lancé dans le monde des galeries, dans une soirée où sévit Andrew. I saw an angel with big tits. J'ai vu un ange au gros néné, en somme. Elle s'appelle Marianne Faithfull. Mais si Andrew a le flash, est-ce seulement à cause de Marianne ou parce qu'à New York, c'est Joan Baez qui escalade le hit parade? Il convoque Marianne en studio, qu'importe si elle ne sait pas chanter. Elle enregistrera une chanson d'un auteur connu, mais c'est trop compliqué. Elle n'a pas assez de métier. Par contre, la chanson façon Joan Baez, que lui propose deux types timides, quasi muets, qui ne lui adresseront même pas la parole, As Tears Go By, elle l'enregistre en deux prises. Il faut quand même deux morceaux sortables. Andrew lui demande ce qu'elle sait chanter, elle répond Green Sleeves, les feuilles mortes. Alors, en route pour la vieille rengaine traditionnelle, et sur le disque, peu importe, pour les royalties, Andrew déclarera Green Sleeves by Andrew Loog Oldham. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Il s'en faut de 2 ans encore que Marianne vienne percuter l'univers des Stones. En attendant, Eric Easton l'envoie en tournée. Une tournée dont la vedette est Jane Pitney, autobus, hôtel, coulisses. Elle oubliera son poète, ne le retrouvera que lorsqu'à la fin de la tournée, c'est Jane Pitney qui l'aura oublié. Marianne Faithfull, qui emmenait Shakespeare et Simone de Beauvoir dans ses tournées de province, quand tous les mâles de l'autobus lisaient des bandes dessinées ou se gavaient de vannes grivoises pour chanter « As Tears Go By » de Mick Jagger et Keith Richards. I want to hear the children sing. All I hear. Le grand bond en avant, c'est de progressivement mêler tout ça. Keith Richards, quand il se réveille en fin de matinée, les rares journées qu'on a de libre, après quelques cigarettes et pas mal de thé, a l'habitude de s'échauffer à la guitare, toujours avec un seul morceau, qu'il va jouer pendant des semaines. En ce moment, c'est une chanson de Buddy Holly qui s'appelle « Not Fade Away ». À la guitare, cela sonne particulièrement bien parce qu'on baisse la corde grave d'un ton pour jouer en ré. On l'a déjà enregistré en studio. C'est bien, mais pas suffisant pour un single. N'empêche, Andrew a suggéré à Spector de les rejoindre ensuite au studio. Dès qu'il peut s'échapper, Spector embarque dans sa limousine avec lui 2 musiciens américains qui se louent dans les tournées, Graham Nash et Alan Clark. Pour Andrew, c'est recevoir le maître, comme un adoubement. Mais le maître, quand on lui fait écouter Not Fade Away, ne répond rien. Silence. Puis il leur suggère de la réenregistrer, mais à un tempo 2 fois plus lent. Il dit que c'est le défaut, en studio, de tout vouloir jouer trop vite. Et que si un morceau est bon, il tient aussi à vitesse lente. Alors, on s'exécute. Il se trouve que Jane Pitney, ce soir-là, arrive à l'aéroport et que c'est son anniversaire. Il achète une double bouteille de cognac Courvoisier et à l'hôtel, demande qu'on lui trouve Spector. Spector est avec les Stones, il y va aussi. Quand il arrive, on lui fait écouter la version rapide et la version lente et on attend les compliments. Silence. Alors Pitney et Spector vont prendre les choses en main. Pitney dit que ce qui est bien, c'est le début obsessif de Richards à la guitare et qu'il faut garder ça tout en avant. Spector prend Brian de face, à 30 cm de son visage, et lui fait répéter son harmonica. Puis, quand on enregistre la version instrumentale, Jagger et lui prennent des tambourins. C'est Spector qui donne le rythme. Et Jane Pitney tape d'une pièce de monnaie sur le double de Courvoisier, qu'on a déjà tout vidé. Ensuite, c'est Graham Nash, celui qui formera plus tard le Crosby, Stills, Nash & Young, et son collègue Alan Clark qui font les chœurs. Enregistrer en studio, c'est se faire une injection de transe, ce qu'on doit sur scène au public. Là aussi, ils retiendront la leçon. Pour la phase B, on prend un Jimmy Reed, Shame, Shame, Shame. Et Spector emmène Mick dans le couloir et à eux deux, ils réécrivent les paroles. Plus question de laisser les royalties s'échapper. Cela s'appellera Little by Little Jagger Richard. On passera la nuit au studio, à improviser avec Jane Pitney et Phil Spector. On a plusieurs versions de Andrew's Blues, une version instrumentale parce que Spector cherche à leur extorquer le son dont ils sont capables. Et une autre où on chante ce qu'on peut de paroles à 4h du matin quand on a trop bu et que ça donne
« The Rolling Stones are a load of shit. Now I've heard them, I know they're a load of shit. »
Un peu comme sur l'air de « Les Gaulois sont dans la plaine », on dirait « Quel paquet de merde, ces Rolling Stones, maintenant que je les ai vus et entendus, oui, je le sais, quel paquet de merde, ces Rolling Stones, Andrew's Blues. » Quand sort « Not Fade Away » et qu'on vient le jouer à la télévision, on mime en playback, on en rajoute un peu, sur les gestes, sur la frime. Ce qu'on mime, c'est cette transe qu'on a eue en studio. Alors il se trouve un grincheux pour envoyer, dès le lendemain, une lettre à la chaîne.
I'm not against pop music when it's performed by a nice clean boy like Cliff Richard, but you are a disgrace. Your filthy appearance is liable to corrupt teenagers all over the country. Je n'ai rien contre la musique pop si elle est jouée par un gars propre et net comme Cliff Richard, mais vous, vous êtes une honte. Vos façons à vous cinq, c'est assez pour pourrir les adolescents partout dans le pays.
En principe, de ces lettres, ils se moquent. C'est le raisonnement de Keith Richards en 71.
When people make these kind of irresponsible remarks, it just draws the fans more firmly to our side. Quand des gens font ce genre de remarques irresponsables, ça ne servait qu'à accrocher les fans plus solidement à nos basques.
Ou bien, en langage Mick Jagger,
as long as my picture is on the front page, I don't care what they say about me on page 96. Tant que j'ai ma photo en première page, je ne m'occupe pas de ce qu'ils racontent sur moi à page 96.
Mais Andrew a décidé de rebondir et de mobiliser à leur service l'attaque du grincheux. Parce que ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'aucun d'eux n'aurait eu l'idée de faire de tout ça un argument. Alors c'est lui-même, Andrew, qui envoie un article à Melody Maker sous le titre
« Would you let your daughter marry a Rolling Stone? Laisseriez-vous votre fille épouser un Rolling Stone? »
Avec « Not Fade Away », repris de Buddy Holly, on s'affirme pour la première fois comme héritier du rock blanc et pas seulement du rhythm and blues noir. Avec le slogan d'Andrew, ils ont trouvé en plus leur définitive image de marque. Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon, texte dit par Judith Allison et François Bon, équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Patrice Lecomte, Olivier De Canis et Jacques Taroni.